Que le Seigneur soit béni pour nos enfants. Et ce matin, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me préoccupe vraiment. C'est le sujet de l'obéissance. On va partir de ce texte dans Luc. Je ne sais pas comment vous priez. Chez vous, avec votre conjoint, lorsque vous êtes seul, comme le Seigneur nous le demande dans nos maisons, de nous enfermer, de prier, notre Père Céleste qui est dans les cieux. Je ne sais pas comment vous priez. Mais il me semble que nous prions pour obéir à Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, dans un contexte archi compliqué qui ressemble beaucoup au nôtre, c'est un contexte des scandales dans les églises. Comment le monde est scandalisé par les églises. Le monde ne croit plus à l'église. Et en plus, il a raison. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, suite à cet enseignement sur le scandale, les apôtres, bien sûr, disent quelque chose au Seigneur Jésus, que nous aurions pu dire nous aussi. Luc 17, verset 5. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Si vous avez pris garde aux dons spirituels, je pense que vous avez tous, moi le premier, été interpellé par l'importance vraiment de comprendre la volonté de Dieu. Dont les apôtres, interpellés par le sujet, font cette prière au Seigneur Jésus. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il continue. La foi n'est pas liée qu'à la semence. Jésus continue sur un sujet beaucoup plus profond. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, scène-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été demandé? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Vous gardez cette page, s'il vous plaît, nous allons aller dans Romains, où Paul explique ce pourquoi il a reçu un apostolat. Romains chapitre 15, nous allons lire que le verset qui nous intéresse, nous allons en lire deux d'ailleurs. Romains chapitre 15, verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. Regardez bien pourquoi. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Dans Romains au chapitre 6 et au verset 17, tout un chapitre sur l'obéissance, nous voyons ce que Dieu réclame. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Retenez bien cette phrase, frères et sœurs. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Vous avez obéi de cœur, et nous le voyons plusieurs fois dans la parole, cette obéissance de la foi. Dans le but du ministère de Paul, mes frères et sœurs, je sais qu'il y a un combat dans certains cœurs par rapport à l'incrédulité, par rapport à la désobéissance. Je le perçois dans mon cœur. Certains d'entre vous être très loin de Dieu. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais moi je le sais. Et c'est de ma responsabilité de nous aider à devenir cette église. Vous savez, sur la terre, il y a entre 300 et 400 dénominations et mouvements qui se réclament être l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Les assemblées de Dieu, à l'occurrence, disent, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Les catholiques disent, nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église byzantine dit, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Les franciscains, etc., etc. Mais est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus, peut dire de nous ce matin, vous êtes mon église? Une église qui n'obéit pas à Jésus-Christ n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et Paul, lorsqu'il présente son ministère aux chrétiens de Rome, c'est une grande lettre, présente son ministère comme étant donné par Dieu pour ramener les chrétiens, les païens d'abord, à l'obéissance de la foi. Lorsque les apôtres sont conscients du sujet que Jésus aborde, ils ne peuvent pas faire autrement de dire « Mais Seigneur, augmente-nous la foi ». Lorsque nous voyons que l'église de Jésus-Christ dans le monde aujourd'hui n'est plus crédible aux yeux du monde, et les gens ont raison de se moquer de l'église, quand je dis de l'église, c'est de l'église en général. Les gens du monde ne sont pas capables de faire la différence des dénominations. Nous devons bien réagir et nous poser la question, est-ce que nous voulons être l'église de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas accaparés par notre dénomination, Assemblée de Dieu, Église évangélique, etc. etc. Le titre, ce n'est pas important. Mais mon frère, ma sœur, toi qui t'es levé tout à l'heure pour prendre le pain et le vin, est-ce que vraiment tu veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ? C'est très sérieux. Beaucoup de gens pensent faire partie de l'Église, ils n'en font pas partie. Ils ne se sont jamais repentis, ils ne se sont jamais convertis, ils ne sont jamais nés de nouveau, ils ne font pas partie de l'Église. Ils font partie, ils sont membres d'une congrégation, ils participent, ils assistent à un culte, etc., ou à la messe, ce qu'ils voudront. Mais ne font partie de l'Église que ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis. Et devant les sujets difficiles, comme celui-ci, qui est le scandale, cette prière peut être faite, mais Seigneur, augmente ma foi. Et Jésus ne leur dit pas, venez, approchez-vous, je vais vous imposer les mains et votre foi va grandir. Vous avez vu ce que Jésus fait? Il leur parle de trois choses en vérité. Trois choses qui devraient vraiment nous interpeller. Le premier, bien sûr, c'est sur la semence. Il est hors de question que notre foi grandisse, soit réelle et vivante sans la parole de Dieu. Jésus fait allusion à la parole, cette parole immuable, cette parole éternelle. La foi ne peut être réelle et vivante que par la parole, et uniquement la parole. Même si elle n'est pas grande, il dit un grain de sénévé, c'est une qualité, que la parole, rien ajouté, rien retranché. Et puis après, il leur donne un exemple d'un gars qui rentre du travail. Il a passé la journée dans les champs, il s'est occupé des brebis et des bœufs. Et puis quand il rentre à la maison, eh bien à la place de se reposer, eh bien il doit continuer à faire ce qui lui a été ordonné. Et le Seigneur, pour que nous comprenions bien ce qu'est la foi, donne tout un enseignement sur l'obéissance et pour terminer, sur l'humilité. Parce qu'il est certain que si nous pouvons obéir à Dieu aussi, c'est un effet de sa grâce. C'est certain, comme le disait le dernier don spirituel, lorsqu'on s'approche de Dieu, on est délivré, la grâce de Dieu nous est accordée. C'est un effet de sa grâce. Tout est de grâce, tout. Le sujet de l'obéissance est un sujet archi sérieux dans la Bible. Du début à la fin, le Seigneur a pu construire son Église qu'avec des gens obéissants. D'ailleurs, il est dit dans les Hébreux qu'il revient pour ceux qui obéissent. Il est dit que le Saint-Esprit, il est donné à qui? À ceux qui obéissent. Et Paul présente son ministère Et il dit bien, j'ai reçu l'apostolat pour ramener les païens à l'obéissance de la foi. C'est un sujet qui m'a été imposé toute la journée de mardi. D'ailleurs, mardi, je ne suis pas venu à la réunion. Parce que toute la journée, j'ai dû me tenir dans le jeûne et la prière. Parce que je savais que Dieu voulait me parler. Et j'aurais aimé venir. Vous savez, quand je ne viens pas à l'église, ce n'est pas pour regarder la télévision. C'est vraiment pour chercher le Seigneur. Et je savais, parce que je vous explique, je vous le dis en deux mots. Il y a un pasteur qui m'a appelé pour me demander un sujet sur un thème. En principe, quand un pasteur me dit « Monsieur Gault, prêchez sur ça », eh bien moi je prêche sur ça. Et vraiment, en priant, je ne peux pas prêcher sur ça. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je prêche dans les jours à venir sur l'obéissance. C'est un sujet qui correspond à toutes les églises. Parce que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts à cause de la désobéissance. Même si certaines faveurs sont accordées à un homme. À tel point que Jésus dira même, à la fin du sermon sur la montagne, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas guéri des malades? Je ne vous ai jamais connu. Paul avait reçu l'apostolat, et normalement tous les pasteurs dignes de ce nom ont reçu le même appel, à savoir d'amener les chrétiens à l'obéissance. Frères et sœurs, je vous assure, ça me préoccupe. Je suis vraiment travaillé. Peut-être par ce que j'entends tous les jours. Il avait à disposition la parole, on l'a vu, les actes, parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu confirme sa parole. Vous êtes d'accord? Nous voulons, parce que c'est la volonté de Dieu, que le Seigneur confirme sa parole. Je bâtirai mon église. Dieu confirmera sa parole, si l'église dans laquelle nous sommes est vraiment l'église de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez l'épître de Pierre, je vous donne ce verset, 1 Pierre 1, verset 1 à 2, on va le lire quand même. Regardez, ça résume, c'est important de lire certains versets. Des fois je les cite, mais des fois c'est bien à lire un, de comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés. 1 Pierre 1, 1 et 2. C'est le même principe, c'est l'apôtre Pierre, cet homme qui a renié Jésus, mais qui s'est profondément repenti et qui a été utilisé comme un vase d'or. 1 Pierre chapitre 1, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi ? Afin qu'ils deviennent obéissants. La première chose que le Seigneur demande, c'est que nous devenions obéissants. Le but de notre ministère à chacun, c'est d'obéir. L'obéissance de la foi. Ou alors, dans Romains 6, on a lu l'obéissance du cœur. Qu'est-ce que c'est l'obéissance, au fait? Parce que souvent, je me rends compte qu'on utilise des mots et qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la définition de ces mots. Et en préparant cette exhortation, j'ai dit, tiens, je vais chercher la définition du mot obéissant. Il y a deux définitions. La première, la soumission à la volonté de quelqu'un. Bien sûr, pour nous, c'est Dieu. La deuxième, c'est la soumission à une nécessité reconnue indispensable. Alors vous allez me dire, c'est le dictionnaire Larousse. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité dans l'Église que nous connaissions ce à quoi Dieu nous appelle ? Qu'est-ce que c'est qui est lié à la vie véritable? Seigneur, à quoi m'appelles-tu? Chacun dans l'Église, chacun, chacune, à partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, on vient de le lire dans Pierre, c'est pour que nous devenions obéissants. Si, écoutez bien, peut-être que ce que je vais dire, je vais mal le dire, mais vous me connaissez, c'est pas grave. Si, je veux bien le dire, si votre vie chrétienne se résume à être assis le dimanche matin sur une chaise dans une église et attendre l'autre dimanche prochain, le sermon suivant, moi je vous dis que vous n'êtes pas dans l'obéissance. Par contre, il y a des gens qui ne peuvent venir que le dimanche, mais qui sont dans l'obéissance. Parce que chez eux, ils obéissent à Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais chacun devrait savoir ce à quoi Dieu l'appelle. Même si c'est resté chez lui, je vous ai souvent parlé d'une dame, une sœur, quand je suis arrivé dans l'assemblée, une toute petite mémé, toute âgée. Elle est venue jusqu'à, je crois, 85 ans à l'église, toute seule à pied. Les dernières années, personne ne la voyait, par quelques visites. Et c'est une sœur, quand j'allais la visiter, on ne la voyait jamais, mais tous les jours, après son culte personnel, après son petit café au lait, elle prenait une heure pour prier. Et elle me disait chaque fois, « Monsieur Gaud, n'oubliez pas les infos sur l'AEP, les infos sur la mission. » Je n'avais pas intérêt à oublier, parce que le café, il était froid. Et tous les jours, quel beau témoignage. Personne ne la connaissait. Elle ne venait plus, elle ne pouvait plus venir. Elle n'y voyait pas, on lui avait fait écrire. Elle voulait absolument lire la Bible. On lui avait imprimé, vous savez, des textes, des lettres de 3 ou 4 centimètres. Elle m'a dit, monsieur Gaud, je veux lire la Bible, faites-moi quelque chose. Bon, on l'a fait. Avec mes grandes capacités d'informaticien, je l'ai fait faire. Mais cette femme, elle obéissait à Dieu. Mais je répète, je le dis pour ceux qui vont avoir des difficultés lorsqu'ils vont passer devant Dieu. Si votre vie chrétienne se résume à attendre le prochain sermon dimanche prochain et que vous ne fassiez rien pour Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais vous devez l'entendre. Chacun d'entre nous, nous devons entrer dans l'obéissance de la foi. Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Nous étions des pécheurs et par la repentance, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, par la repentance et la conversion, nous devenons obéissants, c'est clair. Sans la conversion, sans la repentance, on ne peut pas obéir à Dieu. D'ailleurs, je l'ai observé juste au début de ma conversion, beaucoup de chrétiens font cette erreur grossière, c'est-à-dire que lorsque des personnes viennent à l'église qui sont intéressées par l'évangile, on leur dit de suite, il vous faut faire ceci, il vous faut faire cela. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas convertis, il te faut arrêter de fumer, il ne te faut pas t'habiller comme ça. Ils ne sont pas convertis, hein. Moi, quand je me suis converti avec Isabelle, je travaillais, vous savez, en boîte de nuit. En 3 mois, j'ai amené 30 personnes à l'église. Les 30 personnes m'ont dit, Gérard, t'es dans une secte. Il est fou, ton pasteur. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait du vrai. Parce que on demande aux gens de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est un péché, mais un truc de fou. On a perdu des âmes, on les a avortées. Avant qu'elles naissent, on les a abordées. Et moi, ça me faisait de la peine. Alors, si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas né de nouveau, il vous faut passer par la croix. Et vous verrez que vous pourrez obéir. Mais ne plaçons pas les gens dans la nécessité d'obéir tant qu'ils n'ont pas fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Moi, je vois tout ce qu'on a dit à Isabelle, heureusement qu'elle est passée par la conversion, tout ce qu'on lui a dit quand elle est venue à l'église, avant qu'elle soit convertie. Nous devons découvrir la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. Et cette foi se manifestera par l'obéissance de la foi. Mes frères et sœurs, si la foi n'a pas l'attestation de cette obéissance de cœur, c'est que cette foi, c'est de la religion. C'est une idée moraliste, ce n'est pas la foi. La foi, elle obéit. Mais ce que nous vivons dans un monde un monde complètement, l'Église apostate et le monde est tombé vraiment dans le malheur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'esprit qu'il y a dans le monde. Cet esprit de rébellion, de contestation, de rejet. Les journalistes sont les meilleurs professeurs de cette affaire. Vous entendez les ouvriers. Écoutez bien, c'est grave ce que je vais dire. Mais on l'entend ça. Les ouvriers qui disent « Nous sommes en grève, nous ne voulons plus être commandés. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel monde on est. C'est complètement stupide. Ça s'appelle l'anarchie. L'anarchie, elle est dans le monde. Ça, je ne pense pas vous l'apprendre. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, l'apostasie est entrée. Et moi, je pense qu'il faut tout faire pour que l'Église soit l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être dans une Église où Jésus peut dire « Je bâtis mon Église ». Vous voulez être dans cette Église-là ? Qu'importe la dénomination. Des fois, on compare les dénominations, je le sais, moi, dans des rassemblements œcuméniques. Vous savez, des grands rassemblements, monsieur Gaud, de quelle église vous êtes ? Ah, vous êtes des assemblées de Dieu ? Ah bon ? Et moi, je suis baptiste. Ah. Et on compare, oui, c'est ridicule. On devrait plutôt se poser la question à chacun, est-ce que tu obéis à Dieu ? Ça, c'est une bonne question. Parce que la parole de Dieu recommande l'obéissance. Oui ou non ? Alors, faisons un petit rappel. Dans quoi le Seigneur nous demande-t-il d'obéir ? Est-ce que les enfants doivent obéir aux parents ? Est-ce que c'est écrit Éphésiens 6:1 ? Enfants, obéissez à vos parents selon ce qui est juste. Vous êtes d'accord, mes frères, que vos enfants vous obéissent ? Vous êtes d'accord ? Votre sourire me fait penser que vous voyez où je vais en venir. Mais vous êtes d'accord ? Est-ce que les enfants doivent obéir aux parents ? Et aujourd'hui, même dans l'Église, ce sont les enfants qui commandent. Ce sont les enfants qui décident l'Église où ils vont aller, qui décident tout. Moi, je pense, les parents, que si ce sont vos enfants qui décident, vous allez beaucoup pleurer quand ils vont être adolescents. Je vous le dis, je ne suis pas prophète, mais je vous le dis. La soumission, et c'est un sujet, moi, la première fois, quand j'étais jeune chrétien, quelques mois après, il y a eu un sujet sur l'obéissance des femmes envers leur mari. Tout le monde riait dans l'église. Et le pasteur faisait rire l'église. Moi, je trouvais que ce n'était pas risible. Du tout. Mais la Bible demande aux femmes d'obéir, de se soumettre à leur mari. Oui ou non ? C'est un sujet archi important. On ne va pas l'aborder ce matin, mais c'est quand même écrit. Alors, c'est sûr que si le mari est indigne, c'est un autre sujet. Et nous, les hommes, les maris ou les futurs maris, nous devrions quand même nous poser la question, est-ce que nous sommes des hommes qui rendons un témoignage du fait que nos épouses, au singulier, pourront se soumettre ? Oui, parce que j'ai entendu quelque chose dernièrement. Mes frères, nous devrions avoir un témoignage qui glorifie Dieu pour que nos épouses puissent obéir. Parce que quand même, mes frères, quand on voit ce que Dieu nous demande d'aimer nos épouses, mes chers frères, on est des frères, on est en Dieu. Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de l'importance des efforts à faire pour être bénis. Parce que tout ça, c'est lié à la bénédiction. Mes frères et sœurs, je bâtirai mon Église. C'est cette Église-là qui est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas l'Assemblée de Dieu ou telle Église ou telle dénomination. C'est l'Église où chacun fait ce que Dieu lui demande. Il nous a sauvés, on l'a lu, pour être obéissants. J'ai reçu l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. La foi, c'est une foi qui obéit. Et si je suis en souffrance parce que je ne suis pas le mari que je devrais être et que ma femme ne peut absolument pas évoluer dans cette soumission joyeuse, eh bien, comme le quatrième don le disait, eh bien, je me tiendrai devant Dieu jusqu'à ce que Dieu me donne l'affection que je dois avoir pour ma femme, pour mes enfants, etc. Est-ce que Dieu peut nous donner sa grâce et sa miséricorde ? Et si nous ne la recevons pas, c'est que nous ne la demandons pas. Ne me faites pas le coup de me dire que Dieu ne vous répond pas. Si Dieu ne nous répond pas sur des choses liées à la miséricorde et à la grâce, c'est qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème. Parce que la grâce, c'est que Dieu nous donne des choses que nous ne méritons pas, et la miséricorde, c'est que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Donc ça, tout le monde peut l'obtenir. Oui ou non ? Tout le monde peut obtenir la grâce et la miséricorde. Vous n'obtiendrez peut-être pas tel talent, tel don, je ne sais pas, des choses même matérielles que vous demandez. Parce que Dieu sait très bien que si ça vous éloignerait de lui, mais la grâce et la miséricorde, tout le monde peut l'obtenir, que son nom soit béni. Tout le monde, n'importe quel pécheur. Même David qui a fait des choses innommables lorsqu'il s'est relâché, eh bien lui qui méritait la lapidation, eh bien il a obtenu la grâce parce qu'il y croyait vraiment. Vous y croyez vraiment la grâce ? La parole de Dieu recommande l'obéissance des serviteurs à l'égard de leur maître. Vous avez un patron, mais vous devez vous soumettre. Ne vous étonnez pas si vos prières ne sont pas exaucées parce que vous êtes tout le temps en train de regimber contre votre patron. Elle recommande l'obéissance des chrétiens aux pasteurs. Alors là, on rejoint le même problème que les hommes et leurs épouses. C'est vrai qu'il y a des situations compliquées. Et des situations difficiles. Si le pasteur n'obéit pas à la parole, soyons, parce que ça se présente ça. Si un pasteur n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a un vrai blocage là-dedans, dans l'église. Oui ou non ? C'est, vous savez, ce que je vous dis, c'est du pratique. Quand la Bible dit que les chrétiens doivent obéir au conducteur, c'est bien sûr dans le cas où le conducteur est obéissant à la parole, à son tour. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Si ce matin, je suis conduit par le Saint-Esprit et que je vous demande à tous, d'une façon solennelle, sérieuse, joyeuse, parce que quand on obéit, on est dans la joie, de savoir ce à quoi Dieu vous appelle, peut-être que vous devriez être à l'école du dimanche, mais que vous êtes paresseux ou paresseuse. Mais c'est sûr que obéir, on ne peut pas obéir comme ça. Bon, je vais obéir, j'ai compris la leçon, monsieur Gaud, je vais obéir. Non. Je pense qu'un chrétien qui obéit, c'est quelqu'un qui a compris la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit, comprenez la volonté du Seigneur. Enseigne-moi, disait David, à faire ta volonté. Paul, quand il écrit aux Romains, il dit, mais je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il y a tellement de gens perdus. Ça vous fait mal au cœur de voir des gens perdus, de voir des gens de nos familles perdus. Et il dit, mais je vous exhorte par les compassions de Dieu, c'est pour que l'on prenne conscience qu'il y a des besoins à offrir vos corps comme un sacrifice, écoutez bien la suite, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou acceptable selon certaines versions, parce qu'il y a des cultes que Dieu n'accepte pas. Et il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu si nous sommes conformés au monde. Si le monde a de l'emprise sur nous, ne vous imaginez pas que nous allons nous mettre tout d'un coup à discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se discerne lorsque nous offrons notre corps. Notre corps, âme et esprit, il ne faut pas offrir que son âme. Il faut offrir son corps. Nous discernerons la volonté de Dieu. Et nous serons l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a de l'obéissance pour chacun. Chacun doit obéir. Mais franchement, mes frères et sœurs, si notre foi, si ma foi fait que je n'obéis pas à Dieu, ma foi, c'est du cinéma, c'est de l'hypocrisie. La parole recommande l'obéissance aux autorités. Plusieurs fois, on le voit. Et nous sommes dans un monde anarchique où la société ne veut plus obéir aux autorités. Vous savez d'où ça vient, ça ? Vous savez de qui ça vient? L'inspiration d'où elle vient? L'obéissance ne doit pas être considérée comme un joug. L'obéissance est une grâce. Comment vous la considérez, vous, l'obéissance? Si vous avez écouté les dons, vous savez ce qu'elle est. Tout est fait pour que notre société chancelle, et elle va chanceler. Mais soyons honnêtes, on est là, sous le regard du Seigneur, on a partagé la communion fraternelle, on a chanté pour glorifier son nom, on a pris le pain et le vin, on a donné notre offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, on repartagera la communion fraternelle dans quelques instants. Là, on est soucieux, je l'espère, de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis ce chrétien qui attend dimanche prochain le sermon en espérant qu'il sera bien? Ou est-ce que vraiment je suis dans cette obéissance? Est-ce que je veux comprendre la volonté de Dieu? C'est Paul qui le dit avant de dire, soyez remplis du Saint-Esprit, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on pense quand on prie que ta volonté soit faite? À quoi pensez-vous lorsque vous dites à Jésus-Christ dans vos prières, parce que ça on le dit d'une manière ou d'une autre, notre Père qui es aux cieux. Mais avant de dire que ta volonté soit faite, il faut dire que ton nom soit sanctifié. Parce que la sanctification rentre en ligne de compte pour que la volonté de Dieu soit faite. Que ta volonté soit faite. À quoi ça correspond? Je vous le dis pas pour vous interroger. Je nous pose la question pour que on soit éclairé. Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que c'est, Seigneur, ta volonté pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est, au fait? Si, imaginons, vous mourrez dans 5 minutes. Vous arrivez au ciel. Est-ce que vous pourriez répondre au Seigneur, au fait, qu'est-ce que je t'avais demandé de faire sur la terre? J'ai peur que beaucoup au milieu de nous soient vraiment confus. Nous devons discerner. Il n'y a rien de plus beau que de discerner la volonté de Dieu. Seigneur, tu m'appelles à. J'ai à cœur ça. Mes frères et sœurs. David a prié souvent. Lisez le psaume 119. Le psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » C'est qu'il voulait savoir. Et ça lui a servi, croyez-moi, même s'il a eu des problèmes. Mais vous savez, mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Parce que quand même, ça, c'est un besoin. Moi, je comprends les faiblesses. Je comprends qu'il peut y avoir un manquement. Je sais qu'il peut y avoir des maladresses. Je sais qu'il peut y avoir des trucs difficiles. Mais entre ces choses qui sont normales et le fait de ne rien comprendre à la volonté de Dieu, comment, dans cette ville de Toulouse, pourrait-il y avoir l'église dont Jésus dira « c'est mon église » Parce que soyons honnêtes, si je vous dis, on ne va pas les citer parce que ça ne sert à rien. Si ce n'était pas enregistré, je le ferais. Mais imaginez que telle dénomination... Pensons à une dénomination connue. Si elle vous dit, nous sommes l'église de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous diriez? Vous direz non. Vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ, parce que vous ne marchez pas dans la vérité. Parce que la tradition a pris le dessus sur la vérité. Parce que l'amour, l'unité a pris l'ascendant sur la vérité, etc. Je pourrais faire ça des heures. Mais mon frère et ma sœur, toi, ne pense même pas à ton voisin. Toi, est-ce que tu peux dire ce matin, oui, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Je fais vraiment partie de l'église de Jésus-Christ. Parce que j'obéis à mon Seigneur Jésus-Christ. J'y obéis. Dans le psaume 103, verset 20, je vous le lis, il y a un texte quand même qui nous exhorte. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. » Qui est puissant en force, qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Vous allez me dire, ouais, ça concerne les anges. Bon, je vous le concède. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Tiens, au fait, mais les chrétiens, est-ce que c'est pas, ils font pas partie de l'armée du Seigneur? Qu'est-ce que c'est pour toi, mon frère, la volonté de Dieu ? Sincèrement. Vous savez, moi, je pourrais ce matin vous dire beaucoup de choses parce que j'ai cherché Dieu pour ce sujet. Vraiment. Mais si tu devais répondre à ton Seigneur maintenant, si c'est lui qui était seul devant toi et qui te pose « Mais mon enfant, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi ?» Il y a 20 ans que tu es au Seigneur, il y a 20 ans que tu es converti. Qu'est-ce que c'est la volonté du Seigneur ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Ou alors est-ce que j'obéis pour obéir, par peur, par contrainte, parce qu'il faut obéir ? C'est quoi l'obéissance ? J'obéis parce que ça m'intéresse d'obéir, parce qu'il y a des commandements qui sont liés à des promesses, et moi j'ai envie de connaître les promesses de Dieu. J'obéis au cas où. Au cas où ça serait vrai. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre si on en arrive à la fin de l'année ? Il nous reste un mois. Qu'est-ce que j'ai appris tout le long de cette année ? Est-ce que j'ai appris cette obéissance de cœur ? Quelle grâce d'avoir un Dieu auquel on peut obéir. On l'a chanté, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas chanté. Hein ? Sois fidèle, obéissant. L'obéissance, mes frères et sœurs, c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Tout existe par l'obéissance. Je voudrais lire avec vous un texte dans Job. Je vais terminer avec cette pensée. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais on va s'arrêter avec cette pensée dans Job au chapitre 39. Regardez bien, mes frères et sœurs, c'est un sujet immense, l'obéissance. Parce que l'obéissance, qu'est-ce qu'il est dit ? Elle vaut mieux. Et que la désobéissance est pire que la divination. Vous imaginez si vous me voyez en train d'invoquer les esprits, en train d'invoquer les morts ? Franchement, qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que le dimanche soir, je suis dans un réseau satanique en train d'invoquer les démons. Qu'est-ce que vous diriez ? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous diriez ? La désobéissance est aussi coupable que la divination. On reprendra ce sujet, on le continuera si le Seigneur me le met à cœur, parce que je ne veux pas le faire pour le faire non plus. Dans Job 39, au verset 34, Job 39, 34, l'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus deux fois, je n'ajouterai rien. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il veut dire ce texte ? Qu'on ne peut pas contester avec Dieu. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. C'est écrit, c'est d'après tes lois que tout subsiste. Nous ne nous rendons pas compte de la puissance de l'obéissance dans les lois de l'univers. Tout obéit à Dieu, tout. Le ciel entier obéit au Seigneur, sauf les chrétiens. Et David dit, si ta loi l'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère, psaume 119, 92. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que le Seigneur peut que nous aider à obéir. Vous le croyez ? L'obéissance de cœur amène la joie dans le cœur des chrétiens. Cela a été dit ce matin dans un don. C'est pour ça que je vous encourage à prier pour que nous aspirions au don spirituel. Mais que nous écoutions ce que le Seigneur nous dit. Lorsque vous entendez un don comme « Tu veux être un vase vil ou un vase d'or ?» Bien sûr, tout le monde, nous allons répondre « Je veux être un vase d'or. » Mais est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a un prix à payer
je te conseille d'acheter de l'or. En plus de l'or éprouvé par le feu. Ça nécessite beaucoup de travail d'acheter quelques kilos d'or. Mais est-ce que ça vaut la peine de terminer la course en devenant un vase d'or? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu ne prendra que les gens qui obéissent. Parce que l'obéissance présente ce qu'est vraiment la foi. Alors on va prier, mes frères et sœurs. Vous voulez demander de l'aide au Seigneur? Vous savez, on m'a souvent demandé, avec Isabelle, quand on est rentré dans le ministère, on m'a souvent demandé, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas 3 ans que vous êtes converti, vous êtes déjà pasteur? Et je pense humblement que j'ai gagné du temps avec cette question. Que ferait Jésus à ma place? Et je nous encourage à tous à nous poser la question. Que ferait Jésus à ma place? Notre Père, je crois que tu m'as donné aussi, comme à tous les pasteurs, le ministère pour amener les chrétiens à l'obéissance de la foi. Et humblement, Seigneur, sous ton regard, nous nous humilions devant toi pour toutes les fois où, sans nous en rendre compte, la désobéissance a ouvert la porte à l'ennemi, plus qu'elle est pire que la divination. Nous voulons développer, Seigneur, cette obéissance, comme toi, Seigneur. Tu as appris l'obéissance. Tu as même appris l'obéissance par les choses dont tu as souffert. Seigneur, aide-nous, non plus à te prier machinalement ou mécaniquement, mais lorsque nous te demandons que ta volonté soit faite, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans le travail, dans l'Église, dans la société, notre conduite soit une conduite d'obéissance. Et même si les scandales nous environnent, nous, Seigneur, nous voulons garder ta parole et dans une humilité profonde, obéir jusqu'à la fin. Merci pour tous tes enseignements, Seigneur, qui nous permettront d'être debout, si nous obéissons, lorsque tu reviendras nous prendre. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.